Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour à tous, bon début de semaine, bienvenue dans RTL vous régale en ce lundi 2 août. Je le fais ou pas ?
Allez-y.
Bah, le chassé-croisé, les juilletistes, les haussiens, tout ça.
Et
ça,
on fait la météo aussi.
On l'a fait tout le week-end, ça va, on est bon là-dessus, ouais. C'est réglé ça. Bon, on est là quand même tous les jours de l'été, je vous le rappelle, d'11h à 12h30 pour vous accompagner. Si vous avez la chance de prendre des vacances, franchement, profitez-en. On est ravis de vous retrouver. C'est le rendez-vous de la régalade, comme tous les jours. Jean-Sébastien et Louise à mes côtés jusqu'à 12h30 et en direct pour vous emmener sur la côte charentaise. C'est la Charente-Maritime qui est au menu de notre escale en ce début de semaine, Jean-Seb.
Une côte charentaise qui dégouline de La Rochelle vers Royan et la côte de Beauté. Je pourrais vous parler des anciennes provinces de France que sont l'Aunis et la Saintonge. L'Aunis qui correspond au nord du côté de La Rochelle, Surgères et son beurre, Marance, Rochefort, l'île de Ré. Les trois autres îles, Oléron, Aix et l'île Madame, appartiennent, elles, à la Saintonge. Alors il y a là-bas mille choses à voir, à manger. C'est un terroir qui a été façonné par l'eau, par l'océan d'une part, qui est à l'origine d'un littoral idéal pour l'ostréiculture. Il y a des marais salants et autant de paysages rivalisant de beauté. Et puis ensuite, c'est la Charente, le fleuve. Le plus beau fleuve de France, selon François Ier, qui a façonné l'intérieur des terres au fil des voyages vallonnés, baignés par une lumière veloutée, les hommes ont égrené quelques trésors architecturaux, des maisons, des églises romanes. Tout cela menant sur une côte atlantique intégralement séduisante, avec des villes qui s'appellent donc Rochefort, Royan, Saint-Palais-sur-Mer, Ronces-les-Bains. Aunis et Saintonge, ça rime avec les moules également. Dans la baie de Charon, il y a des poissons en nombre. J'ai une passion, moi, pour le maigre. C'est un poisson divin, vedette du littoral. Et c'est la pleine saison. En dessert, le mias, c'est une merveille. Vous imaginez ce flan à la farine de maïs, parfumé au cognac. Voilà, le menu.
Le ton est donné.
Des huîtres. Quelques moules.
Et vous allez comprendre, vous allez comprendre que dans cette émission, les coquilles d'huîtres, on n'en fait pas que des cendriers.
Hein. On en fait des colliers aussi.
Louise.
Mais oui, aujourd'hui, on va parcourir les spécialités de ce terroir de la côte charentaise. C'est un excellent moyen déjà de se faire plaisir, mais aussi de s'imprégner de la culture de cette région à travers ses spécialités, ses recettes. On vous emmène découvrir ce terroir absolument somptueux. On va se régaler avec de jolies histoires de traditions, des astuces de recettes. Attention, moules, grillons, entre autres, sont au programme ce lundi. Et vous n'allez pas être déçus, je peux vous dire.
Je salue notre camarade Jade, la complice de Laurent Gérard, que vous retrouvez le week-end également aux côtés d'Éric Dussard. C'est la première à m'avoir fait goûter le gros grillon.
C'est vrai ?
C'est la première.
Ah oui.
C'était un baptême dans ma vie, il y a à peu près 10 ans de ça. Je m'en souviens comme si c'était il y a 2 heures.
Et alors ?
Je viens de vous expliquer. C'est un souvenir impérissable, ça.
C'est magnifique.
C'est splendide.
Ah oui.
Dans la playlist d'RTL vous régale en ce début de semaine, les avions. Elle est sauvage. Puisque je vous le dis, le retour d'une diva aussi. Je bénis le Seigneur, c'est le retour de Diana Ross. On écoutera ça d'ici quelques minutes. Puis il y aura aussi Jean-Jacques Goldman. Et vous savez qu'une diva en cache souvent une autre. Il y aura Kimber Rose avec Sober, ajoutez-y. Le roi de la soul. Un classique de 68 avec Marvin Gaye et Patrick Bruel aussi au menu. Hey, gens que j'aime. RTL, vous régale jusqu'à midi et demi sur la côte charentaise.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
11h-12h30,
RTL vous régale.
Bonne matinée avec nous dans RTL vous régale, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Ma chère Louise,
oui.
Mon petit bouchot, on va parler de moules avec vous.
Mais oui, parce que sur la côte charentaise, il y a des moules, il y a notamment des moules de bouchot. Alors déjà, qu'est-ce que veut dire bouchot ? Donc vous avez les moules sauvages, donc à l'état sauvage, et des moules de Bouchot. Donc ce n'est pas une région, c'est une technique de production. Comme leur nom l'indique, les moules de Bouchot sont élevés sur des Bouchots, qui sont des gros pieux en bois, donc des gros rondins, entre guillemets, alignés dans la mer. Les moules sont accrochés dessus, et en fait, avec la marée qui va et qui vient, la moule, bah, du coup, se muscle, et c'est pour ça que les moules de Bouchot sont un peu plus grosses que les moules sauvages. Donc ce n'est pas une région, c'est une technique de production.
Bon. C'est marrant, moi j'avais le sentiment que la moule de Bouchot était plus petite que les moules de Zélande ou...
Elles sont plus petites, oui.
Elles sont plus petites. Non, mais elle est plus grosse que la moule sauvage.
Voilà. Et la Charente-Maritime est le premier département mythylicole de France. La production est principalement développée sur deux zones du littoral charentais, donc la baie de l'Aiguillon au nord du département et la baie d'Yves. Donc comme ça, vous savez, quand vous êtes là-bas, qu'il faut manger des moules. Alors, on sait que les moules frites sont un des plats préférés des Français.
La braderie de Lille.
Exactement. On connaît aussi les moules marinières, les moules à la crème, mais en Charente-Maritime, on les cuisine différemment. Et ce sont des vraies spécialités. Alors, on commence par quoi ?
Oh, moi, je commencerai par une petite mouclade.
Allez, une petite mouclade.
Allez, va pour une mouclade.
La mouclade, c'est un plat charentais à base de moules parfumées au curry. C'est une spécialité qui vient de la ville d'Enande.
Enande.
On remet un petit peu les choses dans le contexte. On est en 1900, dans un petit bistrot où viennent se nourrir les pêcheurs. Madame l'ermite, qui était la maîtresse des lieux, a l'idée d'ajouter les nouvelles épices, donc curry, piment, que les bateaux rapportent d'Inde à sa recette de moules classiques. Et là, succès. Tout le monde se met au partillon pour goûter ces fameuses moules. Et c'est devenu, du coup, l'incontournable des spécialités charentaises, la mouclade. Et il paraît même que Lino Ventura en raffolait. Ça vous donne envie ou pas ?
Les spaghettis à la tomate, Lino. c'était un fan de pâtes aussi, évidemment.
Bah, apparemment, il aimait les moules.
Alors, mouclade rime avec éclade.
Bah oui, forcément. Éclade de rire.
Bah, c'est bon que c'est lundi.
Alors l'éclade.
Oh bah vous en êtes un autre.
L'éclade, c'est une autre façon typiquement charentaise de savourer ces moules. Alors l'éclade de moule, aussi prononcée églade, vient du mot aiguillade, qui signifie en patois ancien aiguillade, par des aiguilles de pin qui constituent la base de cette recette ancestrale. Alors ce sont, donc là il faut bien que vous fermiez les yeux pour imaginer l'histoire. Ce sont des moules bien rangées les unes à côté des autres. La fente d'ouverture vers le bas. Donc en fait, elles sont... J'aime bien comme vous êtes très concentrés.
Mais je ferme
elles
les yeux.
Elles sont, vous voyez, droites, piquées comme ça. Elles se tiennent parce qu'on les colle les unes avec les autres. Et elles sont ensuite recouvertes d'aiguilles de pin séchées auxquelles on met le feu. Donc ça les cuit. Et une fois les aiguilles consumées, les cendres, on repousse les cendres et elles sont prêtes à être dégustées comme ça, avec les doigts uniquement, nature, toute simple.
Je n'ai jamais goûté ce truc-là, mais ça me passionne.
Déjà, c'est un spectacle.
Ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux.
Faites ça sur une plage, éventuellement, voilà. Faites ça dans votre jardin.
Mais c'est impressionnant, c'est beau, c'est un vrai spectacle.
Mais surtout, c'est très très bon, parce que du coup, la moule prend ce petit côté fumé.
Légèrement résineux.
Exactement, c'est excellent.
J'imagine.
C'est le truc, vous êtes comme ça, un soir d'été, il fait bon. Il y a un soleil couchant sur la mer, vous mettez le feu à votre éclade, vous avez un petit rosé dans la main, vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup à côté de vous, et puis...
mange de la moule.
Vous avez de la résine sur les doigts, c'est moyen quand même. Hein.
Et bah vous rincez dans l'eau.
La résine sur les doigts.
Parce que les épines. C'est un défi, ça. Je vous mets au défi de le faire. Jean-Sébastien, votre évidence à vous, ce ne sont pas les moules, ce sont...
Si, aussi.
Oui, non, ce sont les huîtres.
Bah, bah, oui, parce qu'on ne peut pas être en Charente-Maritime sans parler
évidemment.
Les huîtres de Marais-Noléron, les huîtres, elles sont consommées depuis l'Antiquité, mais c'est en France, sous le Second Empire, que l'histoire de l'huître a changé. Napoléon III a œuvré ardemment pour protéger ce trésor marin, interdisant la pêche durant les périodes de reproduction, c'est-à-dire les mois d'été, les mois sans air, les fameux mois sans air, en développant les techniques d'élevage. Pour cela, il a nommé un certain Victor Coste. C'est lui qui va créer les premiers parcs à huîtres, en devenant le père de l'ostréiculture moderne. Mais l'huître très fragile. Elle a frôlé la disparition à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, au fil des épisodes. La plate a disparu presque totalement, supplantée par la creuse portugaise, décimée à son tour dans les années 70, et c'est la japonaise, aujourd'hui, qui représente 98% des huîtres que nous consommons.
C'est dingue ça.
C'est fou, hein. C'est incroyable, cette épopée de l'huître. En attendant, Amarino-Léron, c'est une des 7 régions françaises de production. La filière ostréicole s'est dotée de labels officiels qui garantissent une qualité irréprochable. Des huîtres qui bénéficient d'une IGP. La fine de Claire et la spéciale pousse en Claire, elles détiennent en plus un label rouge. La pousse en Claire, mais c'est un truc de ouf ça. Vous savez, c'est des huîtres qui smagent, des huîtres qui sont craquantes en bouche. En fait, c'est leur raffinage qui est soumis à de nombreuses normes, toutes plus exigeantes les unes que les autres. L'affinage qui consiste à déposer les huîtres adultes dans des bassins, ce sont des anciens bassins argileux de production de sel, ce sont des anciens marais salants. Et là, vous avez un phytoplancton qui vient nourrir l'huître, qui lui donne cette petite couleur verte quand on l'ouvre, ce petit goût très particulier de l'huître de marraine. Et puis voilà, et puis vous touchez au paradis avec ça.
Vous l'avez compris, on est sur un des plus beaux littorales de France.
Sauvage.
Eh ouais. Merci Louise. Quand vous dites sauvage, c'est pour me passer le plat sur ce qui suit, c'est ça?
Oui, parce que de nuit, c'est encore plus beau.
Ah, parce qu'évidemment, la nuit est chaude.
Oui, elle est sauvage.
Et quand elle est chaude, elle est sauvage. Quand elle est belle... Nous sommes les otages de la régala tous les jours sur RTL. Et soudain...
Et sur la piste d'une boîte à musique, elle se balance sous des milliers de soleils, fumée menthol, accrochée au bar, elle me regarde et je bascule dans le ciel, perdu dans ses yeux verts et oranges. Et la nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle.
Nuit sauvage, les avions sur RTL. Dans un instant, le petit tour de Jean Seb. Un petit tour qui va commencer du côté de Rochefort.
Oui.
A tout de suite sur RTL.
RTL vous régale. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale pour parcourir la France quotidiennement jusqu'à la fin de cet été, 11h, 12h30. Jean-Sébastien, on est sur la côte charentaise. Forcément, on se devait de faire escale à Rochefort. C'est une histoire incroyable, Rochefort.
J'ai plein d'endroits où on pouvait faire escale, mais c'est vrai que Rochefort, c'est un des endroits qui me tient beaucoup à cœur. C'est une cité au passé prestigieux. Il faut imaginer ce village de pêcheurs totalement traditionnel, sans aucun intérêt, j'allais dire, avant que le duo magique n'opère. Louis XIV, Colbert. Ils choisissent cet endroit pour devenir l'arsenal qui va permettre à la marine française de rivaliser avec la marine anglaise. Les travaux sont lancés en 1666 et Rochefort allait devenir en moins de 20 ans le chantier naval le plus impressionnant du XVIIe siècle. À la fin du règne du roi Soleil, plus de 150 navires sont sortis de ce chantier. Rochefort possède un patrimoine du coup totalement exceptionnel avec en point d'orgue la corderie, bâtiment qui est lui-même un navire de pierre posé sur un marécage. Il fut le plus long de son époque, 374 mètres de long, nécessaire pour faire des cordes. Les cordes faisaient 200 mètres et il fallait les faire en linéaire. Et puis il fallait aussi de la place pour stocker. C'est un endroit absolument incroyable. Mais Rochefort, c'est aussi un autre endroit que j'adore, que vous allez découvrir. C'est le dernier pont transbordeur encore en service en France. À nouveau en service, après 4 ans de restauration, il permet de franchir la Charente sur 150 mètres sur une nacelle qui avance à 1 800 km à l'heure. Monument qui a été immortalisé par Jacques Demy dans Les Demoiselles de Rochefort,
musique
dont on a la bande originale. Ça, c'est l'arrivée des forains.
Ouais.
Musique de Michel Legrand, évidemment. Et puis lorsqu'on file vers le sud, on longe l'océan qui ne cesse de jouer avec le littoral. Les bras de mer se faufilent dans les terres, créant une carte postale qui se modifie en permanence par le jeu des marées. Le décor est piqueté de quelques cabanes de bois colorées perchées sur des piquets. Tout cela nous offre une alchimie singulière et un ensemble délicat. Et voilà que Royan pointe son nez. Une station balnéaire qui raconte l'histoire du tourisme en France. Il reste quelques villas bourgeoises du 19e. Et puis il y a toutes les maisons des années 50, construites après les terribles bombardements de 1945. On aime ou on n'aime pas, ça ne laisse pas indifférent. Moi, je suis totalement fan de cette architecture de Royan. Et ce parcours qui va de Rochefort à Royan, il fait partie de ce qu'on appelle la Vélodyssée. Parcours de 1200 km qui va de la Bretagne jusqu'à Roscoff. Grosso modo, de Roscoff jusqu'à Andaille.
On reparle un peu de vélo ?
Mais absolument.
Et ben voilà, on en a parlé un peu vendredi déjà. Philippe Coupier est avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de France Vélo Tourisme. C'est un succès phénoménal, le vélo tourisme aujourd'hui en France. Vous êtes à l'origine de la collection Le Routard à vélo. Cette Vélodyssée, c'est une merveille sur tout le parcours.
Oui, franchement, ça fait partie des très grands itinéraires, je pense, non seulement français, mais européens. D'ailleurs, la fréquentation est en permanente croissance. On est à peu près à plus de 20% de fréquentation chaque année. C'est incroyable. Ça fait partie, effectivement, des must. Si on veut découvrir le tourisme à vélo, il faut aller sur la Vélodyssée.
Et alors, il y a un autre itinéraire quand on est en Charente-Maritime qui, lui, part de, on va dire, de Fouras, de Rochefort, pour faire simple, et on rentre vers le Périgord. Ça s'appelle la Flow Vélo.
Oui.
On en fait comme ça. Il y avait ces euro-routes. Maintenant, on fait des routes régionales.
Mais oui, en fait, vous savez, c'est un peu des poupées russes. C'est-à-dire qu'on a ces grands itinéraires européens qui représentent des linéaires de plusieurs milliers de kilomètres. On a des itinéraires nationaux qui viennent les compléter. Et puis, on a des itinéraires d'intérêt plus régional, plus petit, mais néanmoins tout aussi charmant, comme effectivement la Flow Vélo, qui a une caractéristique, c'est qu'effectivement, elle part du cœur de la Dordogne, un petit village qui n'est pas très connu, qui s'appelle Thiviers, où il y a un très bon marché au foie gras, d'ailleurs. Et puis, ensuite, elle rejoint Angoulême. Et d'Angoulême, en fait, là, on a pour fil conducteur la Charente, la vallée de la Charente. On passe par Jarnac, par Cognac et Saintes. Et on arrive à Rochefort. Effectivement, si on continue, on va jusqu'à l'île d'Aix. Donc oui, c'est un très, très joli petit parcours qui permet de découvrir des coins que personnellement, je ne connaissais pas avant de prendre mon vélo pour faire les repérages de ces guides.
Puisque vous faites du vélo, Philippe Coupy, une des problématiques de ceux qui font du vélo, justement, c'est de trouver des sites sécurisés. Vous avez mis l'accent là-dessus. Je sais que les pistes cyclables, d'abord, sont de bonne qualité et elles sont répertoriées parmi les plus sûres de France.
Oui, notamment sur la Vélodyssée, puisqu'on a la chance d'avoir effectivement à peu près 70 à 80% de pistes dites en site prof, c'est-à-dire qu'elles sont séparées de la circulation automobile. Donc là, on peut y aller pas les yeux complètement fermés, parce qu'il faut quand même regarder le paysage, mais on peut y aller en toute sécurité avec des enfants.
Et le routard à vélo, donc, sont des cartes qui sont commentées. On peut vraiment se balader à la carte, en fait. C'est ça qui est la bonne idée.
C'est fait pour ça, en fait. Hein. Ce sont des cartes au 100 millième. Donc, pour les spécialistes, c'est 1 cm égale 1 km. Mmh. Donc, c'est bien détaillé, mais en même temps, ça couvre une zone assez large. Et puis, on a un système de reliure à spirale qui fait qu'on replie le bouquin et on l'installe sur la sacoche qui est fixée au guidon du vélo. Et comme ça, on a le parcours sous les yeux et c'est parfait.
Et puis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Que ce soit électrique ou vélo tradi. Hein.
Oui, bon, sur ce type d'itinéraire, très honnêtement, la Vélodyssée, c'est presque plat tout le temps.
Ouais, voilà.
Donc l'électrique, c'est pas indispensable.
C'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire. Après, pour des personnes qui font pas du tout de vélo, qui ont peur d'aligner 30, 40, 50 km, oui, pourquoi pas prendre un électrique pour commencer. Mais ça se passe très bien.
La Vélodyssée, 1200 km, qui va de la Bretagne, de Roscoff jusqu'à Hendaye, au Pays Basque.
Qui passe par la Charente.
Qui passe évidemment par la Charente, où nous faisons escale aujourd'hui. Merci Philippe Coupy.
Merci à vous.
Merci infiniment.
Je rappelle que vous êtes le fondateur de France Vélo Tourisme, à l'origine de la collection Le Routard à vélo, du guide du Routard. On vous souhaite un très beau mois d'août à vélo, je vous le souhaite.
Pareillement, à bientôt.
Merci. Dans un instant, les petits challenges de Louise Petit-Renault. Il y a trois défis qui vous attendent. Vous êtes prête ?
Je suis échauffée.
Ce sera dans un instant sur RTL.
RTL vous régale. L'alcool. 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Vous avez des soucis en cuisine, vous avez envie de recettes originales, vous avez envie de petits tours de passe-passe, des astuces de grand-mère, n'hésitez pas. Louise Petit-Renault est là, elle les a compilées, elle ouvre chaque jour son grand grimoire.
Exactement.
Pour nous, et on vous en remercie.
Et ce, tout l'été.
Juliette est à Caen. Bonjour Louise, je cite. Auriez-vous une astuce pour avoir du champagne frais pour les amis qui arrivent à l'improviste ? Mon frigo est trop petit pour en stocker. C'est un vrai problème l'été.
Ouais. C'est une vraie question. Alors, vous allez prendre une feuille d'essuie-tout, l'imbiber d'eau, et vous allez envelopper votre bouteille de champagne avec cet essuie-tout mouillé et la placer 15 minutes au congélateur. Vous allez voir, c'est magique, ce sera bien frais, bien frappé. Ça marche aussi avec les autres boissons.
Mais ça ne fonctionne que quand les amis n'arrivent pas à l'improviste. C'est quand vous savez qu'ils vont arriver, parce que vous avez préparé le coup.
Enfin, ça va, ils peuvent, ils peuvent attendre 15 minutes.
15 minutes
entre le moment où on appelle, où on arrive, où on redemande l'adresse.
Ça peut sembler être une éternité.
Oh,
Stéphane Holland est dans la Drôme. Comment faire un beurre végétal ?
Ah bah, c'est une bonne question, parce que c'est.
Mais pourquoi ?
Ah, j'ai
un beurre végétal, c'est quand on.
Bah pourquoi non, c'est pourquoi manger du beurre végétal, c'était ça la question de Jean-Sébastien. Alors Stéphane, vous allez verser de l'huile d'olive dans un récipient et le placer au congélateur. Une fois que c'est bien dur, vous le sortez, vous attendez quelques minutes et vous allez voir, vous allez être surpris par la saveur de ce beurre que vous pourrez tartiner sur par exemple du pain grillé.
C'est parfait ce truc là.
C'est
et
génial.
C'est délicieux en plus.
Ah mais vous connaissez.
Ouais, je connaissais.
Pas mal.
Prenez une très bonne huile d'olive bien verte.
Ouais.
Vous allez voir, ça fonctionne à merveille. Sylvain à Enoa dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ainoa.
Voilà, d'accord.
Chacun son tour.
Monsieur a fait le tour de la France des accents.
Mais ça va, enfin, vous me reprendrez sur les villages belges.
Le témoignage de Sylvain est poignant. Je vous demande de vous calmer. Il est fan de Hachis Parmentier.
Oui, moi aussi.
Nous le sommes tous.
Oui.
Il trouve ça souvent lourd et pas très digeste.
C'est
à l'inverse de nous.
Au revoir Sylvain.
Nous n'avons plus rien à nous dire, Sylvain. Malheureusement, nous ne pouvons rien pour vous, Sylvain. Non, je plaisante. Comment on fait pour alléger un hachis parmentier ?
Eh bien, j'ai une astuce. Vous battez 2-3 blancs d'œufs et que vous incorporez donc à votre purée. Vous allez voir que ça va gagner, votre hachis va gagner, il va gonfler et ce sera beaucoup plus léger et digeste grâce à ces blancs d'œufs.
Après, la question que Jean-Sébastien n'a pas encore posée, c'est quel est l'intérêt d'alléger un hachis parmentier ? Non, mais c'est vrai.
C'est, oui.
Parce que si vous voulez alléger un hachis parmentier, prenez du quinoa par exemple et vous faites un roux du boulgour.
Faites une salade de graines.
Faites un truc de graines.
Et surtout pour qu'il soit bien grilloté, vous mettez du beurre végétal dessus.
Mais bien sûr.
Qui s'appelle aussi de la margarine.
Absolument. Elle est de retour, les amis. Vous savez quoi ? Elle a 77 ans. C'est une des plus grandes voix de la Tamla Motown. Elle vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album qui arrive pour le mois de septembre. Je suis comme un dingue.
C'est vrai?
Bah, mais je suis comme un fou. Voici le premier extrait. La chanson s'appelle Thank You. C'est religieusement que nous saluons le retour de Madame
Diana Ross
sur RTL. Vrai.
Every choice and step I make, every word and breath I take, you're the reason my world keeps turning. Like the blood running through my veins, sunshine when there's only rain, you're the reason my heart keeps learning.
Je suis pas loin de vous dire que je fais de la radio pour ça. Et je suis pas le seul dans ce studio. C'est pour vous passer ce genre de musique. Thank you. Et c'est rien de le dire. Le retour de la diva Diana Ross. Et si j'avais su, je me serais habillé. Bon, l'album arrive en septembre, ça nous laisse un peu de temps quand même.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale.
RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Bien les amis, on pouvait quand même pas faire escale en Charente-Maritime sans vous parler de ce symbole fort de la région. Sors
La clé sort.
Il y en a un évidemment qui a passé sa vie dans les murs de ce fort.
Bah d'ailleurs il y vit.
Je me demande même s'il n'a pas élu domicile dans les travées de Fort Boyard. Bonjour Olivier Mine.
Bonjour Jean-Michel, bonjour Louise, bonjour Jean-Luc. Jean-Seb. Comme je pensais au papa de Louise, j'ai dit Jean-Luc.
Ça doit être ça.
Uniquement pour ça. Voilà.
Comment ça va, Passepartout?
Mais ça va bien. Mais en même temps, je suis très touché que vous m'invitiez tous aujourd'hui sur votre antenne, parce que finalement, Jean-Michel, tu fais partie de ceux qui connaissent bien le fort aussi, puisque tu y as résidé pendant un temps.
J'ai eu cette chance pour la télévision belge. Oui. Absolument, on s'y était croisés, je m'en souviens très bien. Olivier, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que le grand public, j'aime pas cette expression, mais qu'est-ce que les gens ne savent pas sur le fort, sur Fort Boyard, sur les coulisses de cette émission? Il y a des tas de choses à raconter.
C'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter. Alors à la fois, le fort, c'est un lieu de tournage, et puis c'est un lieu historique aussi. Mmh. Ce qu'on ne sait pas souvent, enfin, ce que peut-être les gens ne savent pas trop, c'est que beaucoup de gens pensent que le fort a été une prison avant tout. Ce n'est pas vrai, le fort a été avant tout un endroit qui permettait de protéger l'entrée de la Charente d'une invasion possible des Anglais, si ce n'est que quand il a été achevé, la portée des canons était suffisante pour pouvoir placer les canons sur l'île de Léron ou sur l'île d'Aix. Il n'y avait plus besoin de mettre des canons sur le fort qui se trouvait quasiment à équidistance des deux îles en question. Ce qui fait que le fort n'a jamais servi réellement pour protéger la France d'une invasion probable de l'Angleterre, mais il est resté là comme ça, avec des garnisons qui, la plupart du temps, faisaient du tricot ou du crochet. Et puis, quand les communards ont fait parler d'eux au 19e siècle, ils ont envoyé quelques-uns d'entre eux, dont Rochefort, à Fort Boyard, avant de les envoyer sur la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'à l'époque, pour ce qui était de la commune, le bagne était en Nouvelle-Calédonie et non pas à Cayenne. Donc, on peut dire que le fort n'est pas un endroit de souffrance, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu de prisonniers qui sont restés là sur un long temps et qui ont été maltraités. C'est un lieu qui a été en fait une des premières grandes gabegies de l'État français, on va dire, puisque ça a coûté je ne sais pas combien de millions de francs or pour pas grand-chose.
Olivier, ce qui est terrible, parce que ça c'est pour l'histoire, mais si on nous avait dit, si on avait raconté à l'époque qu'un jour, un monsieur qui s'appelait Jacques-Antoine inventerait ce jeu et ferait de cet endroit un des plus mythiques studios de télévision à ciel ouvert du monde, j'imagine que personne ne l'aurait cru.
Mais d'ailleurs, personne ne l'a cru au moment où il l'a proposé.
C'est vrai.
Antenne 2 a signé parce que c'était Jacques-Antoine, parce que c'était le père de la course autour du monde, c'était le père de dizaines de jeux qui avaient déjà eu un grand succès,
Olivier,
à la télévision française.
C'était le père de la chasse au trésor, et il y a eu un épisode, il y a eu un numéro de la chasse au trésor avec Philippe de Dieuleveu
à Fort Boyard,
qui a été à Fort Boyard, où Philippe se fait dropper sur le haut de Fort Boyard. Moi je m'en souviens comme si c'était hier, de cette chasse au trésor. C'est la première fois que je vois
Olivier.
Olivier,
ce qui s'est passé, c'est que quand il a décidé d'envoyer Philippe de Dieuleveu sur le Fort Boyard à l'époque pour la chasse au trésor, c'est parce qu'il avait vu le film Les Aventuriers de Robert Enrico et qu'il s'était dit, tiens, il y a là quelque chose à faire avec Philippe de Dieuleveu d'abord. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont tourné, il s'est dit, mais c'est un lieu incroyable, il doit y avoir moyen de faire un jeu là-dedans. C'est comme ça qu'est née l'idée.
Olivier, je disais il y a quelques instants, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le fort? On ne sait pas, par exemple, que la seule personne qui est autorisée à y dormir, c'est le gardien de nuit. Sauf que, et là, il y a une différence entre vous et moi. Moi, j'ai jamais eu la chance d'y dormir. J'allais à l'hôtel. Il paraît que vous y avez logé.
Alors, j'y ai logé les trois premières années parce qu'on faisait beaucoup de séquences de nuit à l'époque, à partir de 2003. Et j'y ai redormi sur le fort cette année parce que, comme nous avons fait pas mal d'émissions de seconde partie de soirée qui terminaient très tard, c'est le moyen pour moi de sauver deux petites heures de sommeil en plus, et faites-moi confiance. Sur le tournage du fort, deux heures, c'est beaucoup.
Mais, vous savez, je racontais à mes complices il y a quelques minutes qu'à l'époque du tournage, je faisais des siestes, puisque vous parlez des minutes précieuses de sommeil, je faisais des siestes avec Passepartout notamment, qui m'avait montré un truc génial, c'est que les cadreurs enroulent les câbles de caméra et forment des espèces de nids dans lesquels Passepartout allait se réfugier, et m'avait emmené faire une sieste là-dedans. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais fait une sieste fantastique au-dessus de l'eau, à l'extérieur du fort. On est dans une émission qui s'appelle RTL vous régale. Comment on mange sur le fort, Olivier Mine? Il faut qu'on en parle à un moment donné de ça.
On mange bien sur le fort. J'espère que tu avais bien mangé aussi à l'époque.
Absolument.
Surtout, c'est qu'au-delà de ça, Et ça, c'est vrai que les gens ne savent pas non plus forcément, c'est que ce qu'on fait quand il y a des grandes marées et que la mer se retire et que les pièces de rochers, enfin de pas de rochers, mais les pièces de pierre qui avaient servi à la construction à la fois du brise-lames et du port, parce qu'il y avait eu un port qui avait été construit pour pouvoir évidemment s'amarrer au fort au 19e siècle, ces pièces de pierre sont eh bien l'endroit rêvé pour les huîtres pour s'y fixer. Et donc nous collectons les huîtres lorsque la mer se retire et on se fait des grandes assiettes d'huîtres du fort et qui sont absolument divines quand il ne s'agit pas après éventuellement de choper un bar, et quand je parle du bar, je parle du poisson, hein, pas de l'endroit où on picole, on se chope un ou deux bars de temps en temps. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est comme si la nature nous offrait, par sa générosité, deux, trois petits moments de convivialité et surtout de bouffe absolument merveilleuse.
Surtout que le Perfora n'est pas le dernier à aimer se taper la cloche.
Ça fait partie du off.
Non mais voilà, secret. Vous l'embrasserez pour moi.
Tu manquerais pas.
Salut Yann. Olivier Mine, mille merci. On vous retrouve évidemment aux commandes de Fort Boyard pour la Xème saison. C'est laquelle là? C'est...
Alors c'est la 30, attends voir que je dise de bêtises, c'est la 33e saison pour Fort Boyard, c'est ma 19e saison en animation, et c'est vrai, tu avais raison de dire en intro, qui aurait pu prédire qu'une émission de ce type allait vivre si longtemps de si joli succès, c'est vrai que c'est un miracle permanent et ça c'est grâce aux téléspectateurs et aux auditeurs d'RTL qui peut-être pour certains ou certaines regardent le programme.
Olivier, ouais, je suis désolé parce que le timing de ma clip cidre vient de s'écouler. On t'embrasse Olivier, prends soin de toi, à bientôt. Salut Olivier, à bientôt. Salut.
Bisous, je vous embrasse.
Allez, les marchés d'RTL vous régalent dans un instant. On va y filer, on va aller à Royan, on va aller dans la région évidemment pour vous parler de ces marchés d'hiver. Il y a des halles dans le coin aussi. On y fera un tour avec Jean-Sébastien Petit-Demange juste après Jean-Jacques Goldman. Quand je vous dis qu'on ira.
On partira de nuit l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute, ensuite on perdra. Laissera nos clés, nos cartes et nos codes de prison pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir aux belles. On ira, on partira, toi et moi, où je sais pas. On n'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort.
En 98, on ira Jean-Jacques Goldman sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
Alcool.
RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale.
RTL vous régale et ça rime avec étal, car nous vous emmenons sur les plus beaux marchés de France tous les jours depuis le début de l'été. On est sur la côte charentaise, on va faire escale à Royan. Vous les voyez les bâches là, multicolores.
Alors en l'occurrence, on voit surtout à Royan les halles.
Ouais,
moi je suis fasciné par ces halles de Royan. Mmh. C'est un écrin qui est à la fois une prouesse architecturale en même temps qu'un poumon économique dans cette ville balnéaire. La halle, elle attire le regard quand on arrive parce que c'est un endroit, une forme de coquillage renversé qui a été construite en 1956, à l'époque où Royan pensait les plaies de sa destruction. Faut se souvenir quand même que la ville de Royan a été détruite par des bombardements alliés. C'était le 4 et 5 janvier 1945, donc 6 mois après le débarquement. Et il y avait cette fameuse poche de Royan où les nazis étaient concentrés. Ce marché central, il incarne tout ce qui fait l'animation quotidienne, quasi quotidienne de cette ville. C'est une des premières fois au monde où on a pensé le béton de manière aussi libre. Il y a juste un pilier central qui soutient la voûte et du coup, il y a une atmosphère très particulière. Déjà, il y a un son particulier à l'intérieur de cette halle. Vous avez tout ce qu'on peut rêver trouver à Royan. Des poissonniers sublimissimes avec des poissons, des crustacés, des coquillages, tout ce qu'offre la côte charentaise. Des bouchers fantastiques, des boulangers, des fromagers, évidemment, puisque les fromages de chèvre abondent dans le coin. Il y a cette halle de Royan et puis il y a le marché de Rochefort, qui est lui aussi historique que l'arsenal. La Charente et ses canaux ont permis d'acheminer des bois, des vivres, des métaux, des denrées depuis la Saintonge, depuis le Périgord, depuis le Limousin même. Et donc du coup, le ravitaillement quand il arrive à Rochefort, tout ça depuis le XVIIIe siècle, est un véritable réseau, un maillage d'approvisionnement comme il en existe assez peu en France. Le commerce a pris une place importante dans ce marché qui existe depuis 1594. Ça remonte. Et c'est vraiment, c'est tout ce qu'on aime dans les marchés de plein vent, dans les marchés de quatre saisons. Les primeurs, là aussi, les charcutiers. Il y a 200 commerçants qui font vivre ce marché ancestral toute l'année. Et vous savez, moi, ce que j'adore là-bas, que ce soit à Royan ou à Rochefort, c'est que vous arrêtez chez un écaillier, vous demandez 6 ou 12 huîtres, il vous les ouvre comme ça devant vous. Vous prenez un petit verre de blanc, vous tapez 12 huîtres au marché entre l'achat d'un rôti de veau et puis l'achat des quelques courgettes que vous allez faire
Louise,
après.
Après, on s'étonne qu'à la fin de cette émission, mais quotidiennement, on se dise « Bon, qu'est-ce qu'on mange ?»
Bah là, c'est ça terrifiant. Fait déjà une demi-heure. Hein,
c'est terrifiant.
Déjà depuis ce matin.
Je vais vous dire, vous qui nous écoutez, le projet de ce midi.
Oui,
on est quand même sur de la baguette rayée de cornichons.
Bah, évidemment.
Il est 11h54 et tout est sous contrôle. Je vous en parle parce que dans quelques instants, c'est le défi frigo entre ces deux-là qui vont s'affronter. Et vous allez jouer avec nous pour une nouvelle semaine et un nouveau cadeau. Forcément, vous allez partir en week-end au château de Rochecotte dans le Val-de-Loire. C'est l'ancienne demeure de la duchesse de Dinard et du prince de Talleyrand. C'est un château magnifique du 18e qui a reçu la visite de pas mal de personnages célèbres. Ils ont profité de ce parc boisé, des jardins à la française et des somptueuses salles à manger. Un séjour de nuit pour deux personnes au château de Rochecotte avec un repas au restaurant de l'hôtel. Pour jouer avec nous, c'est très simple. 3210 par téléphone ou régal par SMS au 64 900. Vous pouvez continuer à nous appeler. Le défi frigo de ce lundi, c'est dans quelques minutes, mais le casting commence pour la totalité de la semaine. Et je vous dis bonne chance. Je vous le disais, en début d'émission, les plus grandes voix de l'été s'écoutent sur l'antenne d'RTL. Sober, voici Kimber Rose.
And now that I'm sober, my temperature's a little colder. I see it clearly now, only fair for you. Cause I was young, dumb, and broken. I hate being sober. My hands are shaking and the nights are lonely. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's all? I've been drunk for 3 and 15 days. I've got
Sober, le deuxième extrait de l'album Out de Kimber Rose sur RTL. Dans un instant, le défi frigo. On accueillera Céline qui nous révélera l'ingrédient en jeu ce midi. Rendez-vous dans un instant. A tout de suite sur RTL.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et dans un instant, le défi frigo d'RTL vous régale. Céline.
Bonjour.
Le but de la mission que vous venez d'accepter est de nous révéler l'ingrédient du défi frigo en moins de 3 secondes.
Eh bien, il s'agit de la fraise.
Ah, Jean-Céline, à tout de suite. Vous écoutez RTL. Il est midi. Les infos vous sont présentées par Pierre Collard.
Bonjour, bonjour à tous. À Tokyo, les épreuves des Jeux Olympiques continuent. Il est 19h sur place. Actuellement se déroule l'épreuve de saut d'obstacle du concours complet d'équitation, où les Français figurent favoris. Ce matin, Jean Quicampoix a remporté l'épreuve de tir rapide au pistolet à 25 mètres. C'est la 22e médaille française pour ces Jeux, 6e en or. Jean Quicampoix qui était déjà médaillé d'argent sur cette même épreuve à Rio en 2016. Pour Samir Aït Saïd, porte-drapeau de la délégation française, c'est la déception. Il repart bredouille après l'épreuve des anneaux en gymnastique artistique, remporté par le chinois Liu Yang. En basket, l'équipe de France féminine se qualifie pour les quarts de finale, malgré leur défaite face aux américaines, 93-82. Et l'équipe de handball féminine aussi s'est également qualifiée en quarts de finale. Et toujours en sport, notez la victoire et la joie des Lillois qui l'ont emporté hier 1-0 face au PSG pour le trophée des champions. Premier titre pour l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Emmanuel Macron a publié une vidéo d'une minute sur son compte Instagram tout à l'heure, un peu avant 10h30. Il s'est affiché en t-shirt et en selfie depuis le fort de Brégançon où il est actuellement en vacances. Le président de la République a rappelé que 35 millions de Français sont doublement vaccinés, que trop de fake news circulaient à ce propos. Il appelle donc ses abonnés à lui poser des questions directement en commentaire sous sa publication Instagram. On ne sait pas encore comment il va y répondre. Si vous nous écoutez en voiture dans les bouchons, soyez attentifs côté rétroviseur puisque la remontée de fil pour les motards est de nouveau autorisée dans plusieurs départements. Une pratique qui était interdite en théorie depuis le mois de janvier. C'est une nouvelle phase de test qui commence aujourd'hui et qui devrait durer 3 ans. Et puis si vous nous écoutez toujours en voiture mais que vous cherchez de la place pour vous garer, sachez qu'à Paris, dans les 11 premiers arrondissements, le prix du stationnement augmente à partir d'aujourd'hui. Le prix horaire passe de 4 à 6 euros. Avant de parler de la météo, on va essayer d'être positif avec cette bonne nouvelle, la naissance de jumeaux pandas au zoo de Beauval cette nuit. C'est un événement très rare. Pour l'instant, ce sont de petites boules roses de 130 grammes. Dans quelques années, ils pèseront une centaine de kilos si tout va bien. Les prénoms ne seront choisis que dans une centaine de jours. Un mot donc de météo qu'on n'ira pas jusqu'à qualifier d'automnal, mais on n'en est pas loin. Avec tout de même le retour d'un temps plutôt ensoleillé dans la moitié sud du pays, malgré quelques petites averses possibles en Gironde ce matin et dans les Alpes cet après-midi. Et le Mistral qui soufflera assez fort en Provence. Et dans le nord, un ciel chargé avec des pluies cet après-midi et des éclaircies furtives. Les températures, cet après-midi, 19 à Morlaix et à Chaumont, 20 degrés dans l'Aveyron à Rodez, 22 à Paris et à Troyes, 24 à Blagnac, 27 à Valence dans la vallée du Rhône et à Montpellier, 28 en Corse à Ajaccio et 29 à Aigues-Mortes, c'est dans le Gard. À Dieppe, il fera entre 18 et 20 degrés sous des éclaircies, c'est là que vont se courir les courses du jour. Départ à 13h50, voici les pronostics de Jordan Philippi. Le 15, l'As, le 4, le 6, le 8, le 3 et le 14. Et dernière minute, c'est le 15 Gancourt. Vous écoutez RTL, il est 12h03. C'est la suite de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de Manger, Louise Petit Renault.
Il a tout dit. C'est vrai que la météo n'est pas forcément automnale.
C'est pas fou.
Mais j'ai quand même l'impression qu'on va ouvrir la chasse au petit gibier dans quelques heures, si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup, Pierre Collin. Prochaines infos tout à l'heure à midi et demi.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de Manger et Louise Petit Renault.
Et notre agent Céline. La première candidate du défi frigo de cette semaine. Céline, comment allez-vous ?
Bien, content d'être avec vous.
Eh bien, c'est un plaisir partagé. Vous appelez d'où ?
D'Étréchy, dans l'Indre.
D'accord. Faites quoi là-bas ?
Je travaille la nuit chez Tonnant.
Très bien.
Ah, bravo, c'est
voilà,
c'est
l'occasion de le rappeler, qu'on vous doit beaucoup. Vous arrivez avec des fraises de votre jardin ou pas ?
Du jardin, et qu'on va ramasser aussi, qu'on a la chance d'avoir des cultivateurs qui nous permettent de ramasser des produits frais.
Évidemment. Les fraises, quand on a la chance d'en avoir au jardin, on en fait quoi ? On en fait des confitures, on en fait des tartes. La cuisine peu, finalement. Hein. Céline ?
Oui, c'est bien dommage, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on en a énormément. Et puis, j'attends justement du défi des idées.
Vous avez frappé à la bonne porte. Vous voulez commencer avec qui ?
importe, je
vous
laisse libre choix.
Eh ben, Jean-Seb, il m'a l'air prêt, il m'a l'air en place, il fourbit ses armes depuis le début des infos, recette à base de fraises en 1 minute 30.
On va faire quelque chose de très très simple, Céline, et de très très frais. Vous allez prendre vos fraises que vous allez couper en 4. Vous allez prendre des tomates bien mûres que vous allez couper en quartier. Et puis, quelques pousses d'épinards. Ces pousses d'épinards, vous allez les mettre en lit sur une assiette. Vous allez bien ranger les tomates, les fraises comme ça sur cette assiette. À partir de là, vous mettez de la fleur de sel de l'île de Ré, évidemment, puisque nous sommes sur les bords de la Charente-Maritime. Vous allez poivrer cela avec un poivre blanc de Penja. C'est un poivre du Cameroun qui a des arômes mentholés absolument sublimes et qui vont vous révéler à la fois la tomate et la fraise. Vous allez déposer quelques morceaux de ricotta sur tout cela et puis faire une petite vinaigrette hyper légère avec de l'huile d'olive et un vinaigre de framboise. Juste comme ça. Allez, 3 feuilles de basilic pour faire la décoration au-dessus de votre assiette tomate fraise pousse d'épinards. Et vous allez voir que c'est une entrée sublime, fraîche.
Pas mal.
Une entrée d'été qui vous fera oublier cette météo qui fait plus penser à de la chasse qu'à autre chose. Ouais. Et vous allez avoir une explosion de saveur dans la bouche.
Pas mal, ça nécessite peu de cuisine. Hein. Fraises, tomates, épinards, ricotta.
Voilà.
Bim, la faire est dans le sac.
Très intéressant. Comme
Facile à faire, en tout cas.
Oui.
Et plutôt frais.
Mais vous savez
qu'avec des fraises, Louise peut surprendre. Je vois son œil qui frise. Ça veut dire qu'en 1h30, elle propose ceci.
Alors, moi, Céline, je vais vous proposer une pizza fraise jambon de Parme.
Ok,
alors,
je sors.
Alors, je voulais aucun commentaire de votre part. Alors, ce que vous allez faire, Céline, c'est quand vous sortez du travail petit matin, vous allez passer chez votre boulanger, lui demander une baguette en pâte. On n'y pense jamais, mais en fait, chez le boulanger, on peut acheter sa pâte à pain pour faire ses pizzas. Et c'est bon, et c'est forcément meilleur ce qu'on achète en supermarché. Et c'est déjà fait. Donc, vous prenez votre pâte à pain. Vous l'étalez, vous préchauffez votre four à 180 degrés et sur votre pâte à pain, vous allez mettre de la crème fraîche et de la mozza. Vous allez bien poivrer. Vous allez mettre ça au four 20 minutes, 15-20 minutes pour que ce soit bien croustillant. Vous ressortez votre pâte et là, vous allez mettre des chiffonnades de jambon de Parme et entre les chiffonnades, vous allez mettre des petites fraises. Vous allez voir que ça va très très bien ensemble et vous parsemez le tout de basilic, un petit trait d'huile d'olive. Surtout, vous mettez du poivre parce que la fraise adore le poivre. Et je vous assure, ça peut être surprenant, mais c'est excellent.
Ça, c'est sûr. J'ai pas goûté, mais surprenant, ça l'est.
J'ai dit que je ne voulais pas de commentaires de votre part.
J'intitule le plat... J'ai du mal, hein.
Pizza fraise, jambon de Parme.
D'accord, très bien.
Voilà.
Bon, on a échappé à l'ananas. Et la merguez.
Il y a aussi les kiwis.
Je sais.
Mais oui, ça, on a dit qu'on ne faisait pas. Moi, j'ai pas fait de commentaire.
Vous avez raison.
Voilà.
Mais parfois c'est plus fort, hein, genre que moi. Céline, ma chère Céline.
Ben, le mélange salé-sucré est intéressant quand même. Hein. Ah.
Sur la pizza.
Oui, sur la pizza, c'est intéressant, mais j'aime bien la première idée. Le poivre blanc mentholé avec les petites tomates me plaît bien.
J'ai eu peur. Je vous assure, j'ai eu peur. Je me suis dit, si on commence la semaine comme ça, par une victoire avec une pizza à la fraise,
mais
il peut tout arriver.
Ça, c'est pas sympa.
Non, mais... Je reconnais que fraises, tomates, épinards, ricotta. Moi, je suis pas arbitre hein, là-dedans.
Un peu quand même.
Je reste un homme, Louise. Je reste un être humain. Et donc.
Bah, vous restez un Italien.
Reconnais que la recette de Jean-Seb aujourd'hui avait de la gueule. Et victoire de Jean-Sébastien Petit-Demange. Vous ferez mieux demain, Louise.
Bah, en tout cas, vous savez, Céline, que vous pouvez passer chez votre boulanger, acheter une baguette en pâte.
Ça, c'est une vraie bonne idée. Ça, c'est une bonne idée.
Je le ferai parce que la recette de Louise est très intéressante.
Et puis, merci.
Et protégez-vous quand même. Hein.
Et surtout d'aller chez son. Quand vous avez un vrai boulanger à côté de chez vous, qui affiche par exemple Boulanger de France, ce qui veut dire que tout est fait sur place le matin même, tout ce qui s'appelle de la restauration boulangère. Allez acheter votre pâte à pain, effectivement, pour faire des pizzas. C'est hyper simple à faire.
Et je rappelle que au moins on met deux choses sur une pizza, au plus ça ressemble à une pizza.
Et puis au mieux c'est bon.
Et au mieux c'est bon. Céline, je rappelle que vous jouez pour un séjour de deux nuits pour deux personnes au château de Rochecotte avec un repas au restaurant de l'hôtel. C'est un magnifique château hôtel 4 étoiles de la fin du 18e. C'est magnifique. Il y a des jardins à la française. Il y a une terrasse splendide qui domine la Loire. La chef Emmanuelle Pasquier va vous faire découvrir une cuisine gourmande, innovante, passionnée pour un vrai moment de plaisir dans une espèce de salle à manger 18e. Vous allez passer un moment merveilleux là-bas si et seulement si c'est votre nom qui sort du chapeau vendredi en fin de semaine.
Et bon, croisera les doigts.
Et je vous dis bonne chance. Bonne vous pouvez commencer à le faire.
Beaucoup.
On vous bonne embrasse. Merci
vous.
D'écouter RTL. Je rappelle que vous gagnez
comme un. Ça, c'est super.
Mais c'est gentil, vraiment, ça nous fait plaisir. Et on vous envoie pour ça un guide du routard aux éditions Hachette et une montre RTL.
Et merci beaucoup.
Merci Céline.
Gros bisous Céline, à bientôt.
Bisous, bonne journée.
Jean-Michel, c'est vrai que la pizza de Louise, elle est parfaite. Si on enlève les fraises, moi je trouve que c'est. Crème. Mozza.
C'est pas gentil.
Et jambon de Parme, c'est vachement
pas
bon.
Gentil.
Non, mais même crème.
Mais crème, fraise, même... c'est la vie.
Même crème,
pas.
Ça passe pas.
Vous êtes pas de ma génération, vous pouvez pas comprendre.
Oh, alors ça. Alors cette attaque-là sera retenue contre vous dans les prochaines minutes. Ça va se payer avant midi et demi, je vous le dis tout de suite. I heard it through the grapevine. Faudra bien un Marvin Gaye pour me remettre de ce coup bas, je vous assure. C'est RTL vous régale, les amis. On va vous donner des petits conseils dans un instant. Nous sommes sur la côte charentaise ce matin. À une époque, après avoir diffusé cette chanson, on aurait rangé le vinyle avec beaucoup de précautions dans cette magnifique pochette un peu élimée, un peu écornée. Il n'en est plus rien et c'est dommage. 1968, ça ne nous empêche pas de réécouter ce fameux standard « I heard it through the grapevine », standard RTL signé Marvin Gaye.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka.
Et avec Louise et Jean-Sébastien sur la côte charentaise, forcément, on a du boulot. On va devoir faire des choix sur ce qu'on rapporte aujourd'hui.
Ah, quoi ?
Oh, bon, on va devoir faire des choix parce que on pourrait prendre l'après-midi pour vous dire.
Oui, oui, mais il y a quand même.
Ah, oui. Ah non, je pensais qu'il y avait plus
une priorité.
Non, on a fait le vide dans le coffre. On est en pleine saison. On ramène des palourdes.
Alors, on va pas forcément les ramener, on va plutôt les manger sur place.
Non, on peut parce qu'on a, pris la bonne habitude de ramener
la
des
glacière.
Non périssables. Je dis un peu de risque dans cette émission.
C'est vrai, non mais on a les glacières et le frigo qui est branché sur l'allume-cigare.
Évidemment.
Donc tout à l'ancienne.
Non, c'est vrai, on est très très organisé.
Je rappelle qu'on n'a pas les vitres électriques dans la frigo. Hein.
On n'a pas la clim, on a le frigo.
En attendant, la palourde, c'est vrai que c'est la saison. Ce coquillage un peu grisâtre de forme allongée qui fait 4 cm, c'est la palourde mâle. Elle est grosse avec des stries bien marquées. La femelle est plus petite, plus lisse, plus délicate. Les palourdes plates, quand vous faites de la pêche à pied, elles ne sont absolument pas comestibles. Vous ne les ramassez pas, vous ne les touchez pas, vous ne les mangez pas. De toute manière, le mieux, c'est de les acheter chez votre poissonnier, chez votre écaillier. Et alors là, spaghetti al vongole.
Évidemment. C'est pareil que pour la pizza à la fraise. Vous ne touchez pas, vous ne mangez pas, vous ne...
Commencez pas.
Qu'est-ce qu'on rapporte d'autre ? On parlait des grillons tout à l'heure.
Les grillons charentais. Oh là là, midi 16 là déjà. Bon alors je vais essayer de vous en parler sans trop saliver. C'est une sorte de pâté confectionné à base de morceaux maigres de porc qui sont mis à confire pendant plusieurs heures. Donc on tartine ça simplement sur une tranche de pain de campagne avec des petits cornichons. Ou alors on peut le mettre.
Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez ça dans une fouée qui sort du four, justement d'un four de boulanger.
On va appeler ça fouasse aussi. Voilà.
Et puis ça va fondre à l'intérieur.
Et on fourre dedans.
Oh là, et ça.
Fourre de grillons.
Pop, avec des huîtres.
Avec des huîtres. Et même dans un petit papier alu pour le manger pour le soir.
C'est raté, vous bavez. En même temps, c'est pas grave parce que la devise de cette confrérie est baver toujours, mais ne jamais médire.
Non.
Certains feraient bien d'en prendre de la graine. La confrérie des cagouilles est avec nous. Je parle au grand gastéropode, au grand maître. Claude Moreau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour,
sur RTL. Je suis ravi d'accueillir le grand gastéropode de la confrérie de la cagouille qui fait la promotion de l'escargot d'élevage, de l'héliciculture, c'est ça hein ? Et des produits hélicicoles. Je l'ai fait. Parce que c'est comme ça qu'on appelle l'escargot petit gris dans la région. C'est ça, c'est la cagouille.
Tout à fait. Hein, c'est le vocable qui a été retenu pour tout le département, pour ce bel escargot tellement gastronomique. Mais
c'est
qui a tellement
d'autres espèces, le petit gris.
Qualité. On va voir ensemble.
Oui, c'est une espèce, enfin, le petit gris.
C'est-à-dire que l'escargot de Bourgogne, c'est pas une espèce. Je voulais juste vous le rappeler.
C'est une espèce, mais l'escargot de Bourgogne n'existe plus en France. Hein, hein. Et les escargots de Bourgogne que l'on mange en France viennent des pays de l'Est.
Voilà.
Et en plus, il n'y a pas d'élevage, on ne peut pas l'élever.
Et ce ne sont pas des petits gris. C'est pour ça que quand vous mangez des petits gris, c'est français.
Voilà, on salue nos amis bourguignons.
Gris et gros gris.
Ils seront ravis de l'entendre. Dites-moi, comment je vous appelle ? Grand maître, grand gastéro... Je vous appelle Claude. Hein.
C'est bien, oui.
On est d'accord. La cagouille, c'est pas nouveau. Hein. Même si la confrérie elle est assez récente, elle a été créée en 88.
Ouais, c'est pas mal, 88, quand même.
Ouais, hein. C'est bien, quand même. Ça
correspondait à quelque chose.
Alors, le
au renouveau de l'héliciculture picto-charentaise.
Mais alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette cagouille ?
Alors, d'une part, la Charente-Maritime est le premier département producteur d'escargots vivants français.
Ouais.
Voilà pourquoi il y a eu une confrérie, il y a eu besoin d'en mettre une pour ajouter, donc, aux moyens de communication et de promotion, une confrérie. Parce qu'effectivement, ça correspond dans le territoire à des productions. Bon, sur en Charente-Maritime, on a l'an passé un héliciculteur qui a fait 52 tonnes.
Ah ouais, quand même.
Et ça pèse 10 à 11 grammes. Alors on fait
division. Ah bah, ça vite le calcul, ouais. Mais ça veut dire que la confrérie est là pour but de promouvoir, j'imagine, ce petit escargot délicieux, mais aussi d'en permettre la dégustation dans des foires, dans des événements. C'est ça l'idée ?
Voilà, c'est-à-dire nous, c'est la promotion générique. Hein. C'est-à-dire on fait la publicité pour aucun héliciculteur, mais pour tous.
D'accord. Ouais. Et donc comment...
Très souvent, quand on sort avec un héliciculteur. Parce que nous, on fait déguster gratuitement et lui vend ses produits.
C'est une très bonne formule.
La confrérie, si elle existe, c'est parce qu'il y a des professionnels.
Alors faites-nous rêver, justement, Claude.
Oui.
Comment ça se cuisine ? Comment on le déguste dans les meilleures conditions ?
Alors, c'est vrai vrai qu'il y a deux types de recettes. Les anciennes, hein, qui venaient de nos grands-parents, tout le monde connaît. Mais nous, la confrérie, on a envie de changer et faire connaître l'escargot d'autres façons au niveau gustatif. Alors, par exemple, c'est le crumble aux escargots avec des pommes. C'est, par exemple, les raviolis d'escargot.
Ah, ça, c'est top.
Oh. Voilà, un ravioli où, dans lequel on y marie un petit peu de champignons frais et un peu d'aubergine.
Et avec un petit beurre d'ail ou pas ?
Alors, on parle pas de. Si on parle d'escargot, on parle pas de beurre d'ail. Parce que aujourd'hui, le beurre d'ail, et d'ailleurs, un beurre d'escargot, il n'y a pas d'escargot dedans. On est d'accord ?
Oui. Hein ? Oui.
C'est un vocable qui requiert justement qu'on met.
C'est du beurre, de l'ail et du persil.
Oui, mais c'est pas bon, parce que tout compte fait, ce qui est important, c'est de découvrir le goût de l'escargot, parce que l'escargot, il a un goût. Si vous lui mettez du beurre et de l'ail et du persil, il n'y a plus de goût. Voilà. Vous sentez la farce.
Louise, vous filez au coin.
Pardon ?
Je veux plus vous... Non, mais c'est parce que Louise, quand on lui dit escargot, elle pense beurre, ail, de toute façon.
Même quand on dit n'importe quoi, je pense tout
elle dit beurre, ail. Oui, bien sûr.
C'est vrai qu'aujourd'hui, 97% du marché, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça que aujourd'hui, un Français mange 5 à 6 escargots par an.
Ce qui n'est pas assez, selon vous.
Ah ben, pas du tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse découvrir des nouvelles recettes. Nous, quand on est en animation, on fait un petit truc qui est super sympa, c'est les beignets d'escargot.
Ah, ça doit être bien, ça.
Ben, oui. Ah ben, alors, le beignet, si on le fait en entrée de repas, on le fait avec un petit dé de jambon. C'est-à-dire, on prend un pic, hein, on met un petit dé de jambon, un escargot, pâte à beignet, friture, et on grignote.
Ah, c'est bien ça.
On se croirait dans un défi frigo.
Ah, j'aime bien cette idée. Ah, le coup du beignet d'escargot, vous avez su me parler.
Si on le fait pour la fin du repas, on prend le petit pic, on met un grain de raisin blanc, un escargot, pâte à beignet, friture, et là, c'est super parce qu'on met sucré, salé.
Oh, bon sang.
Voilà. Alors, de toute façon, comme vous allez venir le 2 avril 2022.
Oui.
Dans l'île de Ré.
Oui.
Oui, d'accord.
Pour le chapitre de la confrérie, tout ça, y compris pour Louise, vous allez ensuite abandonner complètement le beurre d'ail.
Est-ce qu'on pourrait introniser Louise au moment où on va vous rendre visite ? Parce que je voudrais la voir quand même avec ce costume.
Oui, oui, oui.
Ce costume de la confrérie qui est magnifique. Costume jaune et vert, le chapeau orné de coquilles.
Alors,
jaune pour le soleil, vert pour la verdure.
Pardon ?
Jaune pour le soleil, vert pour la verdure, les deux couleurs du costume.
Ah, il a lu ça quelque part.
Oh, vous savez, c'est une équipe extrêmement rodée.
Non, mais ce serait bien que vous veniez. C'est le samedi 2 avril dans l'île de Ré, dans un très très beau domaine. Donc on commence le midi et là, l'ensemble des produits de terroir Picto-Charentais.
Et vous, Claude Moreau, vous êtes absolument fabuleux parce que vous montrez toute la modernité de ce que peut être une confrérie.
Voilà.
Ça n'est absolument pas ringard et je me battrai surtout pour ça parce que vous poussez une profession, vous poussez des produits, vous les faites découvrir d'une manière moderne et ça fait partie les confréries
c'est vrai.
De notre archipel français auquel je tiens tant.
Alors, en plus, l'escargot, à l'image de nombre de produits amis, a plusieurs facettes.
Non, mais Claude, je suis désolé de vous interrompre. Et c'est vrai, hein, on pourrait en parler pendant très très longtemps. J'insiste sur le fait de ce que Jean-Sébastien vient de dire est important. Les confréries, c'est pas ringard, c'est moderne. Bon, après, sur le costume, on peut discuter.
Si vous croisez
Christina Cordula, il peut y avoir débat. Mais bon, après, chacun son truc. Non, mais voilà.
Moi, je mettrai la cape.
Claude Moreau, on viendra. On sera là le 2 avril et c'est pas des paroles d'ivrogne. Je vous le dis franchement, on prend date. D'accord ? On vous récupère en antenne et on prend rendez-vous ensemble. On vous salue, on vous souhaite un très bon mois d'août. La suite d'RTL vous régale, dans un instant, sur RTL.
Merci.
C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté. C'est mon premier vélo, quand il me l'a donné. C'est ma mère attendrie, qui joue son plus beau rôle. À 4h30, à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle, pour jouer au ballon. Traîner dans les ruelles. Ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir. Que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire. Que les parfums du sud s'envolent. C'est l'amour en cadeau quand elle est dans mes bras. Et ça... ça me rend plus beau, puisqu'elle croit en moi. C'est cette petite main qui se perd dans la mienne et change mon destin en une minute à peine. C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent. C'est tous ces gens debout qui me crient leur amour. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir. Que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire. Que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir.
À la santé des gens que j'aime, Patrick Bruel qui annonce cette chanson, un tout nouvel album de Patrick, album attendu pour l'automne prochain. Le petit pas de côté de Jean-Seb.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Petit pas de côté, oui, mais qui reste en Charente-Maritime.
Absolument, car il est une cité à l'histoire étonnante et à la destinée surprenante. Brouage est un village fortifié posé au milieu de nulle part qui aurait dû avoir la destinée de La Rochelle. Peut-on imaginer Brouage, qui fut l'un des ports les plus actifs de la côte atlantique au XVIe, le port par lequel transitait une grande partie du sel en partance pour les Flandres, l'Angleterre et les pays de la Hanse. Et depuis ses remparts, on peut rêver croiser l'un des navires de Samuel de Champlain, natif de Brouage, partant en 1603 pour fonder Québec. On ne s'étonnerait pas de voir à l'angle d'une ruelle par un matin brumeux la pourpre cardinalis du cardinal de Richelieu. Et c'est justement à cette époque des guerres de religion que Condé eut l'idée de faire sombrer 20 navires chargés de caillasses, de sable, histoire d'assécher ce qui était le plus beau havre de France. Entreprise réussie, cela valut aux protestants de subir le siège de La Rochelle. Reste des vestiges superbes, une forge, une glacière, une poudrière et des remparts de 13 mètres de haut, avec bastions et échauguettes. Brouage vaut pour cette atmosphère, cette ambiance étonnante qui en fait une forteresse de mer au milieu des terres. Et on peut imaginer cette destinée de Marie Mancini, écartée de l'entourage de Louis XIV par Mazarin, pour organiser le mariage du roi avec l'infante d'Espagne. Marie Mancini a pleuré longtemps cet isolement, cet exil sur les remparts de Brouage. Racine en a tiré Bérénice. Je n'écoute plus rien, et pour jamais, adieu, pour jamais, à Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. C'est pas une histoire de vaccination qui les séparait en revanche.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Et avec Louise et Jean-Sébastien, on était sur la côte charentaise ce matin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On sera de retour demain, direction dès 11h, le Cotentin. On va trancher, hein. Sandwich rillettes ou pas ?
Pour ce midi, ouais. Mais évidemment.
Je m'occupe des cornichons. Je m'occupe des cornichons, c'est bon. À demain 11h. Vous écoutez RTL, il est midi.